Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Shannon Marini.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette 8e édition de Microcité, votre émission d'actualité hebdomadaire, une émission toujours confinée et enregistrée. Au programme de ce vendredi, une plongée dans l'intimité en temps de Covid-19, comment s'épanouir sentimentalement et sexuellement alors que nous sommes toujours confinés, c'est ce que nous allons voir avec Florence Fortuné qui gère le compte Instagram de prévention sexuelle, Dr Naked et la sexologue Caroline Gendre au micro de Lucille Bess. En fin d'émission, on parlera d'amoureux de lecture cette fois avec Alizé Chegoub. 42% des Français disent lire davantage depuis le premier confinement, un succès qui s'explique aussi par le développement de nouvelles manières de lire. Installez-vous confortablement, vous êtes bien sur Campus Grenoble 90.8, on est ensemble jusqu'à 17h. Tout de suite, on fait le tour de l'actualité avec Colline Mollard. Bonjour Colline.
Bonjour Shannon, bonjour à tous. Les Français ne pourront pas aller skier à Noël, les remontées mécaniques resteront fermées jusqu'à mi-janvier au moins, et malgré les aides du gouvernement, les acteurs de la montagne ne décolèrent pas. Un jour de deuil national est décrété ce mercredi en hommage à Valéry Giscard d'Estaing, décédé il y a 2 jours du Covid-19, un ancien président moderne et réformateur. Retour sur son style bien particulier dans ce journal. De nouveaux traitements permettant de soigner des maladies rares, le laboratoire du Téléthon en est à l'origine. La 34e édition de l'événement caritatif s'ouvre ce soir à la télévision et sur Internet. 1 million de Français seront vaccinés contre le Covid-19 en janvier. Jean Castex a exposé hier soir la stratégie de vaccination du gouvernement en 3 temps. En priorité en janvier et février, les personnes âgées en EHPAD et le personnel à risque. Deuxième étape dès février pour 14 millions de personnes présentant des facteurs de risque. Et enfin, au printemps, l'ensemble de la population pourra bénéficier du vaccin, toujours gratuitement. Pas de ski à Noël cette année, ni en France, ni dans les pays voisins. Jean Castex a annoncé mercredi des contrôles aux frontières pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger. Une mesure de prévention, car en France, les remontées mécaniques sont fermées au moins jusqu'à mi-janvier. Loumomège, dans le secteur du ski, on s'inquiète.
La période de Noël, c'est 20% des revenus annuels pour les stations de ski, une perte conséquente pour Esteban. Il travaille sur les remontées mécaniques de Champs-Rousses depuis 5 ans.
La fréquentation va pas du tout la même que si nous, on était ouverts. Pour 2 euros qui sont mis dans les remontées mécaniques, c'est 7 euros qui vont dans les commerces divers, dans la restauration, l'hôtellerie.
Parmi ces commerces, les magasins de location. Patrice est gérant d'une société spécialisée dans les sports d'hiver à Grenoble. Sa boutique regorge de paires de ski, mais pour l'instant, elle reste fermée.
Si vous avez à côté du sport co ou autre chose, vous vous compensez, vous pouvez ouvrir. Mais nous, c'est pas le cas. C'est 80% sur l'activité ski l'hiver. Et après, l'été, on fait un peu de roller, un peu de skate, longboard. Mais voilà, c'est pas ce qui va compenser le manque à gagner avec les remontées mécaniques fermées.
Pour Séverine Bell, directrice de la Fédération nationale pour le développement des sports et du tourisme en montagne, cette mesure affecte toute une économie locale.
Déjà, impact individuel pour tous ces saisonniers qui ne vont pas pouvoir travailler. Impact pour tous les établissements recevant du public.
Des activités certes saisonnières, mais qui drainent de nombreux emplois essentiels à la survie des territoires de montagne.
Il y a forcément des aides du gouvernement qui vont limiter la casse, mais nos territoires ne peuvent pas vivre avec des aides.
En début de semaine, le gouvernement a annoncé une indemnisation des remontées mécaniques. Le chômage partiel est également prévu pour les emplois saisonniers.
Des conditions de réouverture des stations seront discutées avec le gouvernement dans une semaine. Aux États-Unis, plus de 210 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record pour le pays qui enregistre au total plus de 14 millions de cas. Le président élu Joe Biden a indiqué qu'il demanderait aux citoyens de porter le masque pendant 100 jours pour réduire significativement les infections. L'ex-chirurgien Joël Le Squarnec condamné à 15 ans de prison. Le verdict a été rendu dans la nuit par la cour d'assises de Charente-Maritime. L'homme de 70 ans était accusé de viol et d'agression sexuelle sur 4 mineurs dans les années 90. Mais l'affaire de pédophilie ne s'arrête pas là. Un deuxième procès va s'ouvrir impliquant plus de 300 autres victimes. C'est un dernier au revoir pour Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République est décédé mercredi soir des suites du Covid-19 à 94 ans. Emmanuel Macron a rendu hier soir un hommage à l'homme qui a gouverné la France de 1974 à 81. Ces années ont été marquées par sa volonté de moderniser la fonction présidentielle. Retour sur le style Giscard.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur.
Un président qui voulait casser les codes, qui se voulait moderne, proche des gens, c'est ça la touche Giscard. Et c'est d'abord un sens de la formule redoutable.
Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas.
C'est également un style qui s'inscrit dans l'ère de la télévision. Pour la première fois de l'histoire, un président ouvre ses portes aux caméras et invite son épouse à s'adresser aux Français.
Canemone veut aussi vous exprimer ses vœux.
À tous et à toutes, j'ai...
Bien avant François Hollande, le style Giscard, c'est celui du président normal. Il prend le petit déjeuner avec des éboueurs, il va dîner chez les Français.
C'est quand même un honneur de recevoir le patron de la France, comme on dit.
Une communication qui séduit, mais l'engouement pour le style Giscard s'estompe très vite.
Pétrole, Raymond Barre craint un désastre, il met en garde production.
La fin des Trente Glorieuses et le début du chômage de masse en France le rattrape, ainsi que l'affaire des diamants de Bokassa, une affaire qui le suivra jusqu'à la fin de son mandat.
Et enfin, à la question que m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, j'oppose un démenti catégorique. Et j'ajoute méprisant.
En 1981, l'homme du renouveau devient l'homme du passif, selon François Mitterrand. Valéry Giscard d'Estaing est battu et abattu. Une page se tourne, celle des années 70, celle de la Giscard Touch.
Au revoir.
Reportage de Corentin Bémol. Un téléthon confiné mais déjà victorieux, la 34e édition de cet événement caritatif s'ouvre d'ici quelques heures et durera jusqu'à demain soir. Même si les animations physiques ont dû être annulées cette année, Christelle Delfosse, le téléthon enregistre déjà quelques victoires grâce au Généthon.
Oui, ce laboratoire créé et financé par l'Association française contre les myopathies, l'organisatrice du téléthon, a présenté cette année des résultats impressionnant. Un essai clinique doit bientôt être lancé pour une thérapie génique concernant la myopathie de Duchenne. Elle sauverait la vie d'une centaine de garçons atteints chaque année. Le Généthon travaille principalement au développement des thérapies géniques qui ont pour but de remplacer un gène défectueux à l'origine de la maladie par un gène fonctionnel. Si cette technique a longtemps été hésitante, elle donne de meilleurs résultats ces dernières années. En 2020, par exemple, un médicament lié aux travaux du Généthon a permis de sauver la vie d'une centaine d'enfants dans le monde, dont une vingtaine en France.
Et le Téléthon sera diffusé en direct sur les chaînes de France Télévisions pour 30 heures d'ici la fin de la journée et jusqu'à demain soir. Aujourd'hui, c'est aussi le Black Friday, une semaine après les États-Unis pour laisser les entreprises se préparer à l'événement. Alors que de nombreuses enseignes cassent leurs prix, d'autres affichent leur résistance face à cette opération commerciale, comme Mathieu Disquer à Grenoble.
Ça fait beaucoup de bruit pour rien, je trouve. Ce principe de tout solder le jour du Black Friday, je trouve ça un petit peu débile. On a d'autres inquiétudes. Hein. On vient de fermer pendant un mois, on a fermé deux mois en avril. Et même là, on est en train de reprendre nos magasins, on attend les gens. Chaque année, c'est le Black Friday. De plus en plus, ça fait du bruit. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a quand même un bad buzz autour. Donc pour nous, non, c'est vraiment un simple non, on ne le fera pas.
La déléguée générale de la Confédération des commerçants de France affirme même que cette année, plus que les autres, le Black Friday risque de tuer les petits commerces. En handball, l'Euro féminin a débuté hier soir au Danemark. Aujourd'hui, les Françaises, tenantes du titre, joueront leur premier match contre le Monténégro. Coup d'envoi à 18h15.
Merci Colline, on vous retrouve en fin d'émission pour un rappel des titres. Dans un instant, on parlera de sexualité en temps de confinement, comment draguer sans bar ni restaurant, comment s'épanouir quand la distance nous est imposée. On y revient dans quelques minutes.
Forever. No puedes negarlo.
c'était Washito Rico de Boy Pablo.
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt ?
Le dossier confiné de la semaine.
Mais moi, je veux faire l'amour !
Le Covid perturbe notre vie sentimentale, que ce soit celle des célibataires, avides de nouvelles rencontres et privés de bars, de restaurants, limités par la peur du virus, mais aussi celle des couples, forcés de se supporter 24 heures sur 24, ou au contraire de vivre leur relation à distance. Le Covid est-il un tue-l'amour ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans le dossier de la semaine avec Lucille Bess.
Avec le nouveau confinement, voilà que nos habitudes amoureuses et sexuelles sont à nouveau chamboulées. Comment faire l'amour en temps de Covid ? Pour tenter d'y répondre, j'accueille Caroline Gendre, elle est psychologue, sexologue et formatrice spécialisée en promotion de la santé. Bonjour Caroline.
Bonjour.
À vos côtés, Florence Fortuné qui gère le compte Instagram Dr Naked et qui traite de santé sexuelle et de prévention sans tabou pour le compte de l'association Vers Paris sans sida. Bonjour Florence.
Bonjour, bonjour Lucie.
Alors, on le sait déjà, les confinements successifs, la présence du virus, tout ça, c'est assez anxiogène. La pandémie a des effets négatifs sur le moral et il semblerait que ça joue aussi sur la libido. D'après un sondage IFOP, une femme sur cinq aurait ressenti une baisse de désir pendant le premier confinement. Et d'après une étude du Kinsey Institute, les hommes et les femmes se seraient moins masturbés. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez lors de vos consultations, par exemple, Caroline Gendre, ou vous, Florence Fortuné, auprès du public de l'association ?
Alors, par rapport aux répercussions sur la sexualité du confinement, du Covid et de ce qui se passe dans la société en général, c'est clair que depuis mars, il y a des répercussions. Il y a des vraies réadaptations sur la sexualité, tant de comment elle est mobilisée que dans les pratiques et dans la fréquence du coup, que ça soit quand les personnes sont en couple ou n'ont pas de partenaire particulier ou uniquement des partenaires occasionnels. Donc clairement la sexualité, comme le sommeil, hein, c'est un peu des choses où on peut observer qu'il y a des choses qui se passent. Et là il y a vraiment des répercussions négative. Et puis, moi, j'en observe aussi des positifs par rapport à des retours de patients et de patientes sur les réflexions qu'ils et elles vont avoir sur leur comportement sexuel.
Oui, absolument. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose que vous avez dit toutes les deux qui est important de répéter, c'est que c'est difficile. C'est vraiment les conséquences en fait de cette pandémie sur la santé mentale, elles sont indéniables et il faut pas oublier aussi qu'il y a pas mal de personnes LGBTQI+ qui sont confinées dans des conditions qui sont très très compliquées. On a aussi certaines personnes qui sont confinées seules et qui nous ont exprimé sur les réseaux sociaux le fait que c'était vachement difficile à vivre et une espèce de crainte aussi qui s'est traduite de je supporte pas la solitude, j'ai besoin de rencontrer un partenaire, qu'est-ce que je peux faire? Et ce que je voulais dire aussi, ce que Caroline a dit et sur lequel je voulais rebondir, c'est le fait que avant de parler de nouvelles rencontres, nous effectivement, on va plutôt inciter les personnes qui nous écoutent à favoriser le sexe solo et le fait que pendant cette pandémie, vous êtes votre partenaire de safe sex idéal en fait.
Pour les personnes qui sont célibataires et qui ont l'habitude de faire beaucoup de rencontres, ça peut être donc un risque supplémentaire, on va dire, de rencontrer de nouveaux partenaires en ce moment, quand tout ce qui touche à l'intime, c'est potentiellement vecteur de Covid. Est-ce que, selon vous, il faut arrêter en ce moment de rencontrer des nouveaux partenaires ?
En fait, nous, ce qu'on dit, donc c'est ce que je viens de dire là tout de suite, c'est qu'effectivement, c'est une période qui est compliquée. Néanmoins, l'épidémie de Covid-19, elle n'est pas terminée et qu'il faut plutôt essayer de faire du sexe avec soi-même en priorité. Après, une autre option, parce que on n'est pas là non plus pour être dans l'irréaliste et pour shamer les gens qui veulent quand même rencontrer des partenaires. Enfin, moi, c'est pas mon travail, c'est de leur conseiller les applications de rencontre. Et ce qu'on conseille, en fait, c'est de limiter un maximum le nombre de partenaires, de ne pas culpabiliser et d'adapter, en fait, vos solutions de protection à vos possibilités. De ne pas hésiter aussi de partager votre inquiétude avec votre ou vos partenaires, de leur dire comment vous vous sentez, de discuter de vos craintes et de solutions pour réduire les risques, comme on parlerait de protection, de capote, etc., avec son partenaire. Et aussi, surtout, un conseil qu'on a à donner, c'est de ne pas hésiter à verbaliser son souhait d'être tenu au courant en cas d'infection au Covid-19 ou à une IST pendant cette pandémie.
Justement, on parle des applis de rencontres. Alors, quand on n'a plus le travail, les bars, les soirées entre amis pour rencontrer du monde, c'est un peu tout ce qu'il reste. Leur usage a explosé. Mathilde Cario a rencontré Mélissa et Camille qui ont opté pour cette solution.
Avec des recettes qui ont augmenté de plus de 15% en 2020, Match Group, la maison mère de l'application Tinder, enregistre des bénéfices records depuis le début de la pandémie. Derrière ces chiffres, des millions d'utilisateurs.
C'est devenu le moyen de rencontre en 2020. Avant, j'étais pas du tout appli de rencontre. Je voulais croire un peu à la rencontre réelle.
Mélissa a 27 ans, la fermeture des bars lui a fait changer d'avis, ce qui lui a permis de rencontrer Victor. Mais juste avant leur première rencontre en chair et en os, Mélissa attrape le Covid.
On devait vraiment se voir et quand même au dernier moment, il me fait « Attends, en fait, finalement, je stresse quand même un petit peu, donc on n'a qu'à remettre à plus tard quand on aura tes résultats. » Et en fait, finalement, le lendemain, j'ai su que j'étais positive.
Camille s'est inscrite sur une application au début du premier confinement, alors que sa relation de longue date venait de se terminer.
J'ai rencontré un mec pendant plus d'un mois, c'était tous les jours à discuter. Quand on s'est vus, ça a été fou parce qu'on avait l'impression de se connaître hyper bien directement.
À l'heure du deuxième confinement, Camille n'est plus vraiment inquiète au sujet du virus.
Aller boire un verre avec un mec ou même aller plus loin, c'est pas comme si j'acceptais de participer à un regroupement de 100 personnes.
Pour celles et ceux qui craignent une contamination, les premiers rendez-vous par visioconférence ont la cote. Selon un sondage réalisé par l'application Appen, 54% des utilisateurs seraient prêts à se voir pour la première fois au travers d'un écran.
On entend Camille à un moment qui dit que pour elle, ça a permis de créer un nouveau type de relation, de parler à cette personne pendant longtemps avant de la rencontrer. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau type de relation qui peut naître comme ça, Caroline ?
Ben, là, du coup, il y a une évolution de comment ça se passe, même via des applis où ça pouvait être des scripts très, très figés sur on se rencontre, on prend un verre, on voit comment ça se passe et après, éventuellement... on va faire du sexe. Donc là, ça permet aussi une liberté qui est vachement plus grande sur le temps où les personnes vont être un peu plus centrées aussi sur ce qui leur va peut-être. Donc en termes de temporalité, ça change les choses. Et puis, on est sur une évolution des pratiques par rapport au Covid, tout en étant dans de la réduction des risques.
Alors, on a parlé là beaucoup des personnes célibataires qui cherchent à faire des rencontres en ce moment. Le confinement et le Covid ont aussi un impact sur les couples. On a par exemple un témoignage à vous faire écouter de Jules qui était en couple avec Florian depuis 2 mois. Ils ont décidé de se confiner tous les deux. Et pendant ces quelques semaines, leur sexualité, elle s'est en quelque sorte transformée en rempart contre la routine. Et malheureusement, ils se sont séparés à la suite du confinement. Je vous fais écouter ça.
Pendant le confinement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on couchait moins régulièrement ensemble, comme s'il y avait un peu une perte de libido. Mais par contre, plus le confinement avançait et plus on essayait de faire de nouvelles choses et que ce soit plus intense en fait dans nos rapports. D'essayer de nouvelles positions, d'essayer de nouveaux endroits, parce que justement, c'était un peu essayer de casser d'une certaine manière la routine qui s'était installée, quoi.
Comment on fait pour casser cette routine quand on est soit confiné avec son conjoint ou alors quand on est en télétravail 24 heures sur 24 et que bah, peut-être qu'au bout d'un moment, on en a un petit peu marre et qu'on a du mal à se supporter?
Bah, y a la question des corps, déjà, qui est importante sur comment on peut exister pleinement dans son corps quand on est restreint ou restreinte à un espace. Qu'en plus on réduit beaucoup sa sociabilité et qu'on n'existe que à travers notre partenaire. On est dans une période où c'est difficile de trouver ce que c'est la routine hors du travail, en tout cas de sortir, d'avoir d'autres temps d'évasion de l'entre-soi que le travail.
Oui, ben moi, en tout cas, en termes de ce que le confinement et le fait d'être confiné seul avec son partenaire peut générer, ça me fait un peu penser, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, mais pendant le premier confinement, il y a NYC Health Department, donc le département de la santé de la ville de New York, qui avait sorti un guide de la sexualité en temps de Covid et qui justement avait beaucoup insisté sur le fait que c'était un peu l'occasion en fait de remettre au goût du jour certaines pratiques comme bah, par exemple le glory hole, le fait de mettre un masque au lit, etc. Alors ça peut faire sourire. Mais effectivement, c'est quelque chose que nous, on a repris et qu'on a retraduit en français, justement pour essayer de souligner le fait que le fait d'être confiné tout seul avec son partenaire ou de voir un peu moins de partenaires, etc., ça laissait la porte ouverte à potentiellement de nouvelles pratiques, comme aussi le fait, bah, si on est célibataire ou pas d'ailleurs, de faire des parties de sexe sur Zoom ou au téléphone. Enfin, je veux dire, voilà, ça a ouvert la porte à une certaine forme de créativité dans la sexualité, quoi, qui était assez intéressante. Et qui a d'ailleurs été, enfin, pour que ce soit promu quand même par le département de la santé de la ville de New York, c'est pas rien, quoi.
Eh bien, ça rebondit très bien sur l'extrait que je voulais vous faire écouter juste après. Parce qu'en effet, si une majorité de personnes révèlent que leurs rapports sexuels sont moins bien que d'habitude pendant cette période, d'autres ont redoublé d'inventivité. Christelle Delfos.
Une personne sur cinq a testé de nouvelles pratiques sexuelles pendant le confinement. C'est en tout cas ce que révèle un sondage du Kinsey Institute, un centre de recherche en sexologie américain qui a sondé plus de 1500 personnes entre mars et avril. Et parmi les répondants, beaucoup déclarent avoir fait des acrobaties en essayant différentes positions. D'autres se sont envoyés des sextos ou des photos dénudées. Et puis certains ont été plus inventifs en se tournant par exemple vers de la pornographie en réalité virtuelle ou vers des sextoys connectés, c'est-à-dire des jouets sexuels pouvant être contrôlés à distance depuis le téléphone par son ou sa partenaire. Alors avec ça, même si 100 km vous séparent de votre bien-aimé, vous pourrez continuer à entretenir votre vie sexuelle.
Caroline Genvre, est-ce que selon vous, ce sont ces pratiques inventives et nouvelles qui vont nous permettre de traverser le mieux possible cette période difficile ?
Mais effectivement, quand on a du temps, quand on a du temps déjà en temps habituel, la sexualité, ça peut être réinvesti et expérimenter de nouvelles choses. Là, on voit comment ça se centre sur la technologie et l'utilisation de choses qui sont un peu nouvelles. Et je pense que tout le monde a de la créativité en soi.
Oui, absolument. Et moi, on a vraiment fait une transition parfaite avec ce que je disais juste avant. C'est que effectivement. Le NYC Health Department qui avait sorti son guide de la sexualité et qui faisait justement la promotion de tout ça, bah nous on l'a repris et on a beaucoup joué là-dessus aussi en mode ok, c'est déprimant, mais quelque part on peut voir ça autrement, ça peut aussi être l'occasion d'être complètement créatif en fait. Donc oui, je suis parfaitement d'accord.
Et puis finalement, le confinement, en tout cas notre période, elle permet vraiment de découvrir des ressources insoupçonnées pour chacun et chacune. Il y a plein de personnes qui sont étonnées de voir à quel point il y a des choses qui bougent pour elles, notamment dans le champ de la sexualité. Ou bien qui disent « Ah, c'est comme ça, ah oui, je vois que déjà habituellement j'ai un souci, j'ai pas beaucoup de désir, etc. et ça pose problème ». Et qui vont se pencher sur le problème pour voir un peu ce qu'elles en font.
Merci Lucille et merci à Caroline Genvre, sexologue, et Florence Fortuné qui gère le compte Instagram Dr Naked. Goncourt, Renaudot ou encore Médicis, c'est la période des prix littéraires. Entre épidémie et confinement, ils font partie des rares événements culturels à avoir été maintenus. Et pour cause, confinés chez eux, les Français sont nombreux à s'être tournés vers les livres pour rythmer leur journée. 42% ont déclaré lire davantage en confinement, selon l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique. Un élan boosté par de nouvelles initiatives pour lire autrement. Un reportage d'Alizé Cheboub.
On prend notre livre et hop, on peut changer d'endroit, on peut voyager.
Et la lecture, ça a changé ma vie en vrai.
Comme Chloé et Alice, ils sont nombreux en France à être passionnés par les livres. En 2019, c'était 88% des Français qui se déclaraient lecteurs. Depuis, le confinement est passé par là et lire est devenu une sorte d'antidote à la déprime. Chloé, 24 ans.
Ça nous permet de penser à autre chose, de nous faire du bien, de nous changer les idées. C'est vraiment apaisant, je trouve. Et selon ce qu'on aime lire, par exemple des thrillers qui nous font peur avec des meurtres, etc., ou des histoires d'amour qui nous font rêver. Vraiment, il y a de tout pour tout le monde et c'est ça que j'aime dans la lecture.
À la recherche d'une nouvelle façon de lire, elle découvre le site La Cube avec un K. Il propose de vous envoyer une boîte de lecture personnalisée contenant un livre choisi par un libraire indépendant, une façon ludique de découvrir de nouvelles œuvres.
Quand on commande, ils vont nous poser des questions sur ce qu'on a envie de lire, ce qu'on aime. C'est un livre choisi par un libraire en fonction de ce qu'on a répondu. Et ensuite, avec ça, dans la box, il y a tout un tas d'autres goodies. Donc souvent, il y a des cartes postales, il y a de la papeterie aussi, des extraits de romans. Et franchement, j'en suis très contente.
Mais à l'ère du numérique, la lecture prend parfois de nouvelles formes. Les audiobooks, mais surtout les liseuses, convainquent de plus en plus. Alice, qui lit plusieurs livres par mois, ne peut plus s'en passer.
J'ai acheté ma liseuse quand je partais en voyage. Et pour moi, c'était indispensable de pouvoir lire en voyage. Et quand tu pars en sac à dos, bah, avoir 10 livres dans ton sac, c'est pas possible. Et depuis, je lis pratiquement plus que sur la liseuse.
Un nouveau support qui permet à d'autres initiatives d'apparaître. Avec l'aide de Jérôme, Raphaël a profité du premier confinement pour lancer un coach de lecture virtuelle.
On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, nous aussi, à notre échelle. Et donc, on a lancé De la Culture, qui proposait à ses utilisateurs de rejoindre des programmes de lecture toutes les semaines, recevoir directement dans sa boîte mail un e-book en format PDF ou e-pub en fonction si on a une liseuse ou si on préfère lire sur son téléphone et quelques informations autour de cette lecture, autour des auteurs. Voilà un programme culturel complètement gratuit. Aujourd'hui, on a une petite dizaine de programmes qui sont disponibles sur le site.
Un moyen gratuit de faire découvrir les textes du patrimoine aux amoureux de la lecture et d'encourager ceux qui ont un peu plus de mal à s'y mettre.
C'est une autre façon d'avoir accès à la littérature, de redécouvrir des classiques. On va un peu aller chercher aussi des livres libres de droit qui sont pas très connus. On a eu beaucoup de mails de personnes qui nous disaient bah, « Merci beaucoup, grâce à vous, j'ai lu 4 bouquins alors que j'ai pas lu depuis un an. »
Et pour en profiter, c'est sur le site Zola Culture.
Vous écoutez toujours Microcité. Tout de suite, le rappel des titres avec Colline Mollard.
Le vaccin contre le Covid-19 sera gratuit pour tous, priorité aux personnes âgées en EHPAD pour le mois de janvier selon Jean Castex. Lors de son discours, le Premier ministre a également préconisé une jauge de 6 adultes maximum pour Noël et le jour de l'an. 15 ans de prison pour l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec, accusé de viol et d'agression sexuelle. Un deuxième procès l'attend avec plus de 300 victimes impliquées. Les obsèques de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing auront lieu demain. Pas de cérémonie officielle, mais un enterrement dans la plus stricte intimité familiale dans le Loir-et-Cher. Le Téléthon 2020 débute aujourd'hui. Malgré l'annulation de nombreuses animations, l'organisation compte sur les internautes et les téléspectateurs pour faire grimper les dons. C'est parti pour le championnat d'Europe féminin de handball. Les Françaises affronteront le Monténégro à 18h15.
Merci Colline, Microcité touche déjà à sa fin, mais avant de se quitter, un point météo. Demain, c'est le retour d'un temps sec sur Grenoble avec de belles éclaircies. Il neigera sur les hauteurs le matin. L'après-midi, le soleil sera de sortie avec quelques passages nuageux. Les températures seront de saison. Il fera 5 degrés dans la capitale des Alpes. Merci à toute l'équipe, toujours confinée aux quatre coins de la France, et à Louis Oscovin à la technique. Pour réécouter cette émission ou les précédentes, rendez-vous sur le site de Campus Grenoble. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux Facebook, Twitter ou Instagram, @microcité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien.